Patricia Martin, votre invitée, vous recevez la romancière et essayiste Stéphanie Hochet pour son ouvrage « Éloge voluptueux du chat », c'est paru aux éditions Philippe Ray.
Bonjour Stéphanie Hochet.
Bonjour.
Je sens se profiler ce matin deux camps d'auditeurs, ceux qui vont vénérer le chat ou ceux qui vont le haïr. La question de savoir à quel camp vous appartenez ne se pose même pas parce que vous n'aimez pas seulement les chats. Je crois comprendre que vous êtes un chat.
Je suis un chat, je m'identifie au chat. De toute façon, pour écrire ce livre, j'ai vraiment dû m'incarner et retrouver le félin en moi. Mais ça fait partie des plaisirs. Mais je pense qu'il existe quand même un peu plus de gens qui les aiment que ceux qui les détestent.
On se rend compte en vous lisant combien il est inspirant pour les artistes, pour les amoureux des mots aussi, parce que c'est fou le nombre d'expressions où le chat intervient.
Le langage est truffé d'expressions qui font allusion au chat et il est entré en littérature depuis le Moyen-Âge. Donc il trotte dans la littérature, il est parfois un coin de détail ou parfois il est vraiment un personnage important dans la littérature et aussi dans la peinture.
La liste est longue comme le bras dans la littérature.
Absolument.
Alors, Rousseau, Colette, je cite tout ça dans le désordre, Georges Sand, Zola, Céline, Malraux, La Fontaine, Kipling, Patricia Highsmith, Rilke, Simenon, Borges, le plus grand des poètes. Ça reste quand même Baudelaire.
Baudelaire, c'est celui qui parle le plus de la sensualité, de la volupté. Mmh. Et ce livre était, en fait, ciblé vraiment la volupté, ces thématiques autour de la sensualité, de la caresse, etc. Et c'est vrai que Baudelaire, c'est celui qui, en fait, qui décrit le chat avec le plus de toucher, avec le plus de d'érotisme. Colette sera peut-être plus un œil, alors que Baudelaire sera peut-être plus une main.
Sensuel, élastique, élégant, insaisissable, le chat ingérable aussi, c'est une zone de non-droit à lui tout seul, il ne fait que ce qu'il veut, et il veut tout, d'ailleurs la liberté et le confort, et vous êtes comme ça, c'est pour ça que vous êtes un chat.
Mais oui, c'est très pratique. Et puis, je pense que beaucoup d'écrivains apprécient leur compagnie aussi parce qu'ils s'identifient au chat. C'est-à-dire qu'on fait partie de la société, bien sûr, mais on se retrouve un petit peu en marge. Et c'est agréable aussi de pas se conformer totalement et en même temps de pas vivre comme des ermites. Donc, cette espèce de passage dans la société et hors de la société, c'est agréable. Mais regardez les chatières, c'est exactement, en fait, l'incarnation de cet état-là.
Utopiste aussi, hein?
Utopiste, bien sûr. Puisque, par exemple, si vous observez le chat, il ne peut pas s'empêcher de grimper dans des endroits complètement incroyables, y compris en haut des sapins ou en haut d'arbres très très hauts. Et puis, il comprend au bout d'un moment que, malheureusement, la descente est beaucoup plus compliquée. Quoi. C'est vraiment, on va dire, l'expression même de l'utopie.
À quand peut remonter le premier chat qui a accepté de vivre dans une maison?
Dans ma vie
Non, pas dans votre vie, d'une manière générale.
Dans la maison, on le retrouve très très tôt, déjà au Moyen-Orient, c'est vraiment l'Antiquité la plus ancienne, hein, les Égyptiens, etc., qui en font une divinité, la déesse Bastet, etc. Et puis le chat va progressivement partir, en fait, il va être emmené en Grèce, en Italie, etc., dans tout le pourtour méditerranéen, et il va entrer dans les foyers au Moyen-Âge, en Europe, en France, etc. Mais il est vraiment destiné à chasser les souris. Hein. C'est pas l'animal de compagnie, c'est l'animal utile. Et on voit bien que, dès le Moyen-Âge, il existe des petites fables, des fabliaux qui racontent que le chat qui était destiné à chasser les souris a en fait été goûté au saucisson et que ça va pas du tout.
Quoi. Alors attention quand un chat entre dans la maison parce que ça peut être dangereux.
Alors voilà, le typographe à la retraite, tu prends pour voilà. La nerf petit bourgeois qui n'aime plus vos gros minous. Miaou, miaou, miaou.
Si tu voyais ta gueule, t'es pas belle à voir. Il dégringole de plus en plus tous les jours.
Vieille vache. Vieille vache.
On ne se lasse pas de ce duo, hein, Simone Signoret, Jean Gabin dans le film de Granier de Fer,
c'est
le chat.
C'est merveilleux. Et puis c'est vraiment ce que vous disiez tout à l'heure sur la zizanie. C'est vraiment le chat entre et c'est la zizanie dans le couple. On voit ça aussi dans le texte de Colette qui s'appelle La Chatte. Tout d'un coup, le chat fait partie du couple et même en fait devient le partenaire ou la partenaire de l'un ou l'autre.
Le chat mal aimé, maléfique, quelquefois considéré comme le diable.
Oui, il est considéré comme le diable à partir de la fin du Moyen-Âge, vers le XIIIe siècle. Pastoureau parle très bien de ça. C'est que, en fait...
Michel Pastoureau, oui, historien des couleurs. Enfin, qui a beaucoup écrit sur les couleurs.
Oui, et sur les animaux, et sur les animaux. Également. Et ben, il remarque que effectivement, l'œil du chat brille dans l'obscurité. Le chat est plutôt un animal nocturne. Et comme tous les animaux nocturnes, il est assez mal vu par les bonnes gens de l'époque. Les animaux nocturnes sont des animaux qui appartiennent, on va dire, au monde des ténèbres, donc qui s'approchent du diable. Un bon chrétien est quelqu'un qui ferme les yeux la nuit et qui dort. Donc voilà, donc il se retrouve relégué avec certains animaux comme le renard, la chouette, etc. Donc c'est un animal qui devient progressivement maléfique à la fin du Moyen-Âge, 13e, 14e, 15e siècle. Il y a même deux papes qui vont écrire des bulles pour vraiment le pointer du doigt et préciser que voilà, c'est le serviteur du diable. Ça, c'est un pape qui s'appelle Grégoire IX. Et plus tard, il y aura Innocent VIII qui écrira que le chat est le compagnon des sorcières et donc qu'il doit être emmené au bûcher avec elle.
Il a plus de neurones, le chat, qu'un chien. Est-ce à dire qu'il est plus intelligent?
C'est très compliqué de mesurer l'intelligence du chat, apparemment, principalement parce qu'il ne s'intéresse pas tellement aux tests. Donc, y compris pour les mots de vocabulaire. C'est-à-dire que j'avais lu un article dans The Guardian qui disait que, apparemment, le chat pourrait retenir autant de mots de vocabulaire qu'un chien, mais ça ne l'intéresse pas.
C'est assez drôle, là encore, la liberté totale. Oui. Et qu'est-ce que c'est que cette mode? Je ne sais pas si c'est une mode, d'ailleurs. Maintenant, il y a des bars à chats, ouais. Il y a des lolcats sur Internet. C'est simplement un engouement commercial ou ça correspond à quelque
Alors,
chose?
Alors, ça a commencé à Taïwan. Ça s'est beaucoup développé au Japon. Et les Japonais sont complètement fous des chats. C'est vraiment la nouvelle Jérusalem pour eux, ou plutôt la Nouvelle-Égypte. Et donc, ça permet sans doute à des gens qui ne peuvent pas avoir de chats chez eux, sans doute parce que, voilà, par exemple, au Japon, c'est beaucoup... Les habitats sont beaucoup plus réduits et les gens travaillent beaucoup, donc c'est plus compliqué de s'occuper d'un animal. Il existe aussi le cas de couples dont le partenaire est allergique, etc. Donc le café des chats permet en fait d'aller caresser des chats, d'aller regarder des chats, les observer, de boire un verre avec eux, etc. Et puis de pas s'en occuper à temps plein, quoi.
Voilà, Pierre Veil, j'espère que nous aurons réussi peut-être à faire changer d'avis aux réfractaires, à ceux qui souffrent d'hélourophobie, parce que c'est comme ça que ça s'appelle. Éloge voluptueux du chat, Stéphanie Hochet. C'est publié chez Philippe Ray. Merci.
Merci beaucoup.